Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Blaise Shindani Kambala.
Évasion des 12 détenus ce jeudi pendant leur transfert vers la prison de Kasapa Lubumbashi. D'après la société civile du Haut-Katanga, l'incident s'est produit après la comparution des prévenus devant les tribunaux militaires. Concernant la visite de la première ministre à Ituri, la société civile affirme attendre des mesures concrètes pour mettre fin au massacre des civils par les rebelles des ADF et d'autres groupes armés actifs à Ituri. Avec ses vastes ressources naturelles et son exceptionnelle biodiversité, la RDC est appelée à jouer un rôle de premier plan dans la transition écologique mondiale. Mais quelle diplomatie climatique le pays peut-il déployer pour contribuer efficacement à la lutte contre le réchauffement climatique? Pour répondre à cette question, nous recevons Claude Bayo-Itaka, docteur en relations internationales à l'UNIKIN et expert en diplomatie climatique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal Parler du matin. Évasion des 12 détenus ce jeudi pendant leur transfert vers la prison de Kasapa à Lubumbashi. D'après la société civile du Haut-Katanga, l'incident s'est produit après la comparution des prévenus devant les tribunaux militaires. Les opérations de recherche sont en cours pour retrouver les fugitifs. Face à cette situation, les acteurs de la société civile demandent aux autorités l'acquisition des véhicules spécialement aménagés pour le transport des détenus. Le point avec Paulin Mounan.
Les chargés de la gouvernance sécurité et paix au sein du cadre des concertations de la société civile du Haut-Katanga a publié les noms de ces 12 détenus qui se sont évadés. D'après Bertin Chose, cet incident soulève de sérieuses interrogations sur les conditions de sécurisation des transferts des prisonniers. Il s'interroge sur les dispositifs d'escorte des détenus qui sont mis en place et sur l'opportunité d'organiser certaines audiences dans l'enceinte même de la prison Kasapa lorsque les impératifs de sécurité l'exigent. Les détenus sont souvent transportés dans un minibus de transport qu'on loue à cette occasion. Dans les bus, ils sont souvent menottés et des militaires avec armes à feu les surveillent étroitement. Pour Joseph Kongolo, coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, les véhicules utilisés pour le transport des prisonniers n'est pas adapté. Bertin Chose de la société civile indique que les circonstances exactes de cette évasion ne sont pas encore élucidées et une enquête devrait déterminer les responsabilités de cette évasion. Nous ne sommes pas parvenus à joindre les responsables de la justice militaire pour avoir leur réaction à ces sujets. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Justice encore. 12 ans après leur condamnation, plusieurs officiers et personnalités impliquées dans le procès de l'assassinat du colonel Mamadou Ndala restent détenus sans avoir eu la possibilité d'interjeter appel. C'est la dénonciation faite par l'Association africaine des droits de l'homme, l'AZADO, jugée en 2014 par l'ancienne cour militaire opérationnelle du Nord Kivu qui siégeait en premier et dernier ressort, ces condamnés purgent toujours leur peine dans les prisons de Makala Ndolo à Kinshasa ainsi qu'à Angenga dans la province de la Mongala. L'AZADO demande aujourd'hui leur libération et l'annulation des décisions rendues par cette juridiction désormais dissoute. Les explications de Martial Papimoukeba.
Le 17 novembre 2014, plusieurs personnes, dont le lieutenant-colonel de FRDC, Biro Chonzanzu Kosi, sont condamnées à Beni, au Nord Kivu, par la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, qui statue alors en premier et dernier ressort. Elles sont reconnues coupables de participation à un mouvement insurrectionnel et de terrorisme dans le cadre du procès sur l'assassinat du colonel Mamadou Ndala. Près de 12 ans plus tard, l'AZADO dénonce une décision qu'elle estime injuste et réclame la libération des condamnés, son président, maître Jean-Claude Katendi.
Il y a une injustice. La Constitution prévoit que toute personne condamnée ait la voie de recours. Si le premier juge n'a pas fait son travail de manière satisfaisante, la partie a la possibilité de s'adresser à un autre juge. Et c'est ce que nous réclamons. Aujourd'hui, cette affaire concerne M. Biro Birocho, mais ça peut être vous demain.
Condamné par une juridiction qui statuait en premier et dernier ressort, ces détenus ne disposaient pas d'une voie d'appel classique. Selon des sources judiciaires, leur libération pourrait notamment passer par une grâce présidentielle ou une éventuelle révision du procès. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Comment faire respecter le droit international humanitaire dans un contexte marqué par l'évolution des conflits armés et l'émergence de nouveaux défis sécuritaires? C'est autour de cette question que la délégation du Comité international de la Croix-Rouge CICR en République démocratique du Congo a organisé ce jeudi à Kinshasa une conférence réunissant experts, universitaires, responsables militaires et acteurs de la société civile. Une rencontre consacrée à la réflexion sur les moyens de mieux protéger les populations civiles et de renforcer le respect des règles humanitaires en temps de conflit. Reportage de Daniela Awa Izuba.
Au cours de cette rencontre, les participants ont analysé les mutations des guerres contemporaines et leurs conséquences sur la protection de populations civiles. Pour François Moréon, chef de la délégation régionale du CICR en RDC, cette conférence constitue un cadre de réflexion essentiel pour renforcer le respect des règles humanitaires et adapter les mécanismes de protection aux réalités actuelles de conflits.
À quel point finalement ce droit est incontournable, est une nécessité pour protéger les populations victimes de ces conflits armés.
Sur le plan opérationnel et juridique, les forces armées jouent un rôle déterminant dans l'application du droit international humanitaire. Le général Tchaïkolo Jean-Paulin, conseiller à la haute cour militaire, a pour sa part insisté sur la responsabilité de la chaîne de commandement dans le respect de règles de conduite en période de conflit.
Les audiences des juridictions militaires ont un caractère pédagogique. Lorsqu'on juge un militaire, eh bien, à travers ce jugement, ce sont les autres militaires qui sont éduqués.
À travers cette initiative, le Comité international de la Croix-Rouge entend promouvoir un dialogue permanent entre le monde académique, la société civile et les acteurs militaires. L'objectif est de renforcer la protection de populations affectées par le conflit armé et de favoriser une meilleure appropriation des principes du droit international humanitaire.
Nous attendons des mesures concrètes pour mettre fin au massacre des civils par les rebelles des ADF et d'autres groupes armés actifs en Ituri. C'est parmi les attentes de la coordination de la société civile Force Vive de l'Ituri de la visite dès ce jeudi soir en province de Judith Suminwa, la première ministre. Selon cette structure citoyenne, le gouvernement doit se mettre à la place de la population qui souffre depuis plus d'une décennie de conflits armés auxquels est venue s'ajouter la maladie à virus Ebola qui fait de nombreuses victimes. Marcel Kizabiamongo.
La coordination de la société civile dresse un tableau sombre de la situation sécuritaire dans les territoires de Mambasa, avec des massacres mercredi dernier d'environ 20 personnes par les rebelles des ADF dans les villages de Mandeite et Diapanda. Dans sa déclaration ce jeudi à Bounia, cette structure indique que la population attend des mesures concrètes de la première ministre Judith Suminwa pour mettre fin à l'insécurité à l'Ituri. Son coordonnateur, Dieudonné Lossa, ajoute que les forces vives de l'Ituri veulent voir une redynamisation de la coordination de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Objectif, mettre fin aux fausses rumeurs et à la désinformation à la base du relâchement communautaire constaté dans la province de l'Ituri. Dieudonné Lossa.
Avec ce passage, nous croyons maintenant au désarmement effectif des groupes armés qui sont en Ituri. Que sa visite en Ituri, c'est pour la redynamisation des riposte.
Pendant son séjour à l'Ituri, la première ministre Judith Suminwa compte se rendre également à Mungwalu dans les territoires de Ndjougou, principal foyer de cette épidémie. Elle visitera aussi différents centres de traitement d'Ebola à Bounia et Rwampara. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Revenons dans la capitale lors d'une conférence débat animée ce jeudi à l'université Simon Kimbangu à Kinshasa. Docteur Jean-Jacques Muyembe a insisté sur la nécessité de renforcer le système de santé public afin de prévenir les épidémies en RDC. Il a évoqué notamment les cas de la maladie à virus Ebola qui continue de sévir dans les provinces de l'Est du pays. Ce virologue a conseillé aux populations de respecter les mesures d'hygiène dans leur milieu de vie. Plus de détails avec Blaise Dongala Mayanda.
Lors de cette conférence débat, Dr Jean-Jacques Muyembe a estimé nécessaire que le système de santé soit renforcé pour non seulement prévenir la maladie d'Ebola, mais également couper sa chaîne de contamination.
Il faut renforcer le système de santé par la formation, par l'équipement et par l'hygiène. À introduire les ports des gants, mettre les désinfectants et former le personnel en ce qui concerne la PCI.
Une étudiante de médecine à l'université Simon Kimbangu a affirmé avoir compris que la lutte contre l'épidémie d'Ebola dépend de la surveillance épidémiologique et de l'engagement de la communauté.
Cette conférence m'a permis de comprendre que la lutte contre l'Ebola ne dépend pas seulement de l'intervention médicale, mais aussi d'une surveillance épidémiologique efficace et l'engagement de la communauté.
Après avoir suivi cette conférence, l'étudiant Joël Kilola a fait savoir que Ebola n'est pas une maladie mystique comme le pensent certaines personnes, mais plutôt évitable grâce au respect des mesures de santé publique.
La maladie virus Ebola n'est pas une maladie mystique, mais c'est une maladie qui peut être traitable.
Selon les derniers chiffres de ce mois de juillet, la RDC enregistre plus de 2500 cas confirmés d'Ebola et franchit les seuils de 1000 décès avec un taux de létalité brut estimé autour de 36 à 40%.
À Ituri, les autorités sanitaires plaident pour le maintien de la présence des casques bleus de la MONUSCO à Niakoundé, à 45 km au sud-ouest de Bounia, afin de sécuriser les activités de riposte contre Ebola. Depuis l'installation d'une base opérationnelle mobile aux côtés des FARDC, les malades et les personnels sont revenus au centre de traitement d'Ebola. Ces mesures interviennent après les violences de la semaine dernière qui avaient provoqué leur fuite. Isaac Remoyope.
Depuis le 16 juillet, les casques bleus de la MONUSCO ont installé une base opérationnelle mobile à Marabou, à environ 7 km du centre de traitement d'Ebola de Niakoundé. Aux côtés des FARDC, ils effectuent des patrouilles régulières pour renforcer la sécurité des populations et des structures sanitaires. Selon les autorités sanitaires locales, cette présence a favorisé les retours progressifs des habitants, du personnel soignant et de plusieurs patients qui avaient quitté le centre après les violences survenues à la suite de la mort du chef de la milice FPIC. Le médecin directeur de la structure estime que le maintien de ces dispositifs est essentiel pour assurer la continuité de la prise en charge des malades. Docteur Charles Kachindi.
La MONUSCO, nous saluons leur présence quand ils sont toujours à côté de nous, ils donnent de la paix, mais ils ne sont pas permanents avec nous. Il fallait la permanence.
Même constat du côté du personnel de santé et des malades qui dit se sentir davantage en sécurité grâce à la présence et la force de la MONUSCO et des FARDC. Consolé Bungissé.
On remercie MONUSCO pour leur travail qu'ils font. Ils doivent remettre le calme. Il n'y a pas de coups de balle ici, on est calme à Niakoundé.
Plusieurs centres de traitement d'Ebola, notamment Niakoundé, Mungwalu et Rwampara, ont déjà été perturbés par des actes d'insécurité ou manifestations hostiles à la riposte, compromettant ainsi la prise en charge des malades. Des retours de Niakoundé, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Le projet de pont route rail entre Kinshasa et Brazzaville est entré dans sa phase opérationnelle avec la visite ce jeudi sur les sites de Maluku des 4 entreprises encore en lice pour décrocher le marché de la construction de cet ouvrage. Long de 1575 km, ce pont sera doté de voies routières et ferrées accompagnées des travaux de raccordement terrestre indispensables. Les explications avec Richard Junior Kamunga.
Ces entreprises, parmi lesquelles CCC CRBC et COVEC CREC 4 MBC, ont été conduites sur les sites où sera érigé le pont dans la commune Iribano-Réale de Maluku par le point focal du projet côté de la République démocratique du Congo, l'ingénieur Nico Nzaozao. Il s'agit de la dernière étape clé du processus de sélection de l'entreprise qui se verra attribuer les travaux de construction et de gestion de l'ouvrage dont le coût est estimé à plus de 800 millions de dollars. Nico Nzaozao précise que les travaux de cet ouvrage débuteront en mars 2027.
Dans le processus de recrutement des partenaires qui devra construire ce pont et dans sa gestion, il était question à ce que les entreprises préqualifiées puissent venir voir le site de manière à leur donner quelques éléments qui leur permettront de faire leur proposition.
Pour sa part, le délégué général aux grands travaux du Congo-Brazzaville estime que ce projet évolue de manière équilibrée.
Dans l'ensemble, le projet il évolue bien, et très bien d'ailleurs.
Le gouvernement de la République démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville, avec l'accompagnement de la Banque africaine de développement BAD, ont validé des accords clairs concernant l'harmonisation des régimes fiscaux, douaniers et tarifaires afin de garantir la viabilité économique de l'ouvrage.
Actualité internationale.
À une semaine de l'ouverture officielle du processus de désignation du prochain secrétaire général des Nations Unies, les 6 candidats ont présenté jeudi 23 juillet leur vision devant l'Assemblée générale à New York. Seul Africain en lice, l'ancien président sénégalais Macky Sall a défendu son expérience et son projet de réforme de l'organisation. Antonio Guterres quittera ses fonctions le 1er janvier 2027 au terme de 2 mandats.
L'invité.
La République démocratique du Congo a un rôle important à jouer dans le processus de la transition écologique avec ses ressources naturelles et sa biodiversité. Quelle est la diplomatie climatique qu'elle peut mettre en place pour contribuer activement à la lutte contre le réchauffement climatique? Pour en parler, nous avons reçu pour vous Claude Bayo-Itaka, docteur en relations internationales à l'UNIKIN et expert en diplomatie climatique. Suivez son entretien avec Joël Ouéti.
Monsieur Claude, bonjour.
Bonjour, monsieur Joël.
La diplomatie climatique, en quoi se distingue-t-elle de la diplomatie environnementale traditionnelle?
Alors, la diplomatie climatique, c'est une des approches, un élément sectoriel de la diplomatie environnementale, parce que comme vous le savez, l'environnemental est beaucoup plus global. Alors, le changement climatique, c'est un des aspects de l'environnement. Et la diplomatie climatique, c'est vraiment un des axes principaux actuellement de la diplomatie environnementale, qui est née depuis les années 90, après l'adoption de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, en passant par les protocoles de Kyoto jusqu'à l'accord de Paris, jusqu'à aujourd'hui, c'est en fait ensemble de ces mécanismes à la fois diplomatiques, juridiques, institutionnels qui sont mis en place au niveau international pour aider les pays à régler la crise climatique.
Dans quelle mesure la diplomatie climatique peut-elle être considérée comme un instrument de puissance pour la République démocratique du Congo?
La transition énergétique combinée avec la révolution numérique constitue aujourd'hui parmi des mécanismes qui vont révolutionner les systèmes économiques mais aussi les systèmes géopolitiques mondiaux. Les États qui disposent des capacités technologiques, ce sont ces États-là qui seront considérés comme des vainqueurs de cette révolution. Mais il faudrait qu'on ait ces capacités de démonstration, et ça c'est à travers la science, il faudrait qu'on ait ces capacités technologiques d'adaptation, parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons comme ressources naturelles, nous avons les forêts, les ressources en eau, les tourbières, nous avons tout ça. Mais aujourd'hui, si le changement climatique continue à s'accélérer comme les tendances le démontrent, toutes ces ressources naturelles ne seront pas résistées. Et du coup, il faudrait qu'on développe nous-mêmes nos capacités de résilience, notre politique climatique qui reste de plus en plus dépendante des appuis extérieurs. Alors, cela représente une faiblesse. Il faudrait vraiment que les décideurs essayent d'analyser comment doter notre pays d'une politique d'autonomie stratégique qui va l'aider en fait à mieux assurer les financements internationaux.
Pouvez-vous nous dire, l'action publique congolaise est-elle suffisamment cohérente avec les engagements internationaux en matière de climat?
Nous avons une action publique qui est beaucoup plus adaptée, mais qui n'est pas suffisante, qui nécessite un investissement institutionnel puis stratégique pour aider notre pays à mieux capitaliser les opportunités qui nous sont offertes par cette transition. Et cela nécessite que le pays dispose à la fois des compétences.
Quelle politique publique devait être prioritaire pour renforcer le leadership climatique de la RDC? Quels sont les risques que la RDC court lorsqu'il ne renforce pas sa stratégie de diplomatie?
Le changement climatique, c'est un domaine transversal. C'est une question qui touche presque tous les secteurs. On devrait plus considérer le changement climatique comme un domaine environnemental, écologique, pour le mettre au centre de notre processus de planification. Et en réalité, il y a lieu de voir comment intégrer le changement climatique dans les différents outils de planification. Aujourd'hui, nous avons le PNSD, le Programme National de Stratégie de Développement, qui est un outil central de planification. Je pense que l'axe central de cet instrument devrait intégrer cette question du changement climatique plutôt qu'être sectorisé dans les domaines de l'environnement.
Vos recommandations aux décideurs?
Les différents rapports, que ce soit du groupe GIEC, les différents rapports internationaux démontrent que les prochaines décennies seront très décisives et ça va apporter de profonds bouleversements à la fois géopolitiques et économiques. Il revient maintenant à chaque État de développer les capacités d'adaptation. Notre pays se trouve être à la fois un pays solution, mais un pays très vulnérable au changement climatique. Au fur et à mesure que le changement climatique va continuer à s'accélérer, ça suppose que notre capacité de résilience va de plus en plus être impactée. Il y a lieu que l'État se fixe des objectifs d'adaptation pour développer les capacités d'autonomie stratégique. le ministère des Affaires étrangères, qui est la clé, la plaque tournante de notre appareil diplomatique, soit amplement associé dans ces réflexions et qu'une réforme organique soit intégrée dans ce ministère pour créer en réalité des sections liées au changement climatique. Cela aura comme avantage de disposer au niveau du ministère des Affaires étrangères des compétences, que ce soit au niveau de la centrale, mais aussi au niveau de réseaux diplomatiques, qui sauront de plus en plus défendre nos positions, nos intérêts à l'étranger face à des différentes négociations qui se passent au niveau international sur les questions du climat.
Monsieur Claude Boyo-Itaka, je vous remercie.
Je vous remercie.
C'est aussi la fin de notre journal de ce matin. Merci de nous avoir suivis.